Et tout de suite, c'est l'heure des 10 minutes de neurosciences. Alors, lors de notre précédente émission, que vous pourrez bien sûr retrouver en podcast hein, sur notre site, on avait commencé à parler de la mémoire, mais c'est un sujet très vaste, donc on va continuer, n'est-ce pas Jean-François ?
Absolument, Cyrielle. Effectivement, je vois que vous avez une bonne mémoire.
Oui.
Alors, effectivement, lors de la précédente émission, nous avons évoqué la structure en fait, de la mémoire, avec la mémoire à court terme, la mémoire de travail et la mémoire à long terme, qui contient, souvenez-vous, la mémoire déclarative et la mémoire non déclarative. On a un petit peu expliqué ça pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il y avait un peu dans toutes ces cases.
Bon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur rcmlaradio.fr, le podcast est en ligne.
Alors, cette structure, en fait, on l'a posée et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la mémoire de travail. Nous allons parler aussi des troubles de la mémoire.
D'accord, très bien. Donc, vous souhaitez nous dire donc un mot sur la mémoire et la plasticité ?
Ah oui, la plasticité de la mémoire. En fait, expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ce qu'on sait, c'est que donc, la mémoire fonctionne beaucoup par stimulation. Et lorsqu'on stimule souvent la mémoire, on va augmenter ce qu'on appelle le poids des connexions synaptiques. Pour faire simple, on va dire qu'en fait, les connexions sont plus fortes. Hein, elles sont renforcées, on va dire ça. Le poids des connexions, les connexions des synapses vont se renforcer. Et en fait, ce qu'on appelle la potentialisation, c'est-à-dire l'intégration, la potentialisation à long terme, donc l'envoi des informations dans la mémoire à long terme, c'est appelé aussi ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Et elle est favorisée par l'apprentissage, Cyril. Ça, c'est très important, c'est qu'en fait, l'apprentissage est un très bon vecteur de potentialisation et de plasticité synaptique. Cela étant, il faut faire attention. Si on bloque la potentialisation à long terme, on va créer un déficit de la mémoire. On en parlera peut-être un peu plus loin. Par contre, si on sature la potentialisation à long terme, on rend impossible la mémorisation. Donc, bien que, au fond, on n'ait pas d'éléments véritablement précis sur la taille de la mémoire à long terme, on sait qu'elle est gigantesque. Mais on n'a pas d'idée de mémoire au niveau de sa taille, on peut la saturer. C'est-à-dire qu'on... Alors moi, je le verrais un petit peu comme une grande bouteille. En fait, la bouteille est très très grande, mais le goulot est relativement étroit. Et si on y met beaucoup de choses en même temps, on va saturer le canal d'entrée. Et si on sature ce canal d'entrée, effectivement, on va bloquer. Il y a un clapet, ça se ferme. Vous avez certainement dû le remarquer dans vos études, à un moment donné, trop d'informations, trop de choses à apprendre, à un moment donné, eh bien, ça sature, ça bloque. Et puis,
oui, c'est ça. Donc, on dit bien que la mémoire est peut-être presque infinie, mais en apprendre trop d'un coup, bien sûr, ça ne fonctionne pas forcément. Hein, donc, rassurez-vous.
Absolument. Et quand on regarde un petit peu la logique par laquelle les informations passent, ce qu'on appelle la trace mnésique, donc la trace de l'information en mémoire, la trace mnésique d'un apprentissage se situe de manière précoce dans l'hippocampe. Donc pendant un jour, hein, jusqu'à un jour, en fait, l'information se met dans l'hippocampe, hein, cette partie qui est dans le cerveau. Et en plus, après, cette information va migrer. Elle va partir de l'hippocampe pour aller vers le cortex préfrontal. Et puis après, vers le cortex, donc pour la mémoire à long terme. Donc en fait, les informations circulent de zone en zone dans le cerveau en fonction de l'utilisation qu'on va en faire, du besoin de rappel et du besoin de stockage. Tout ne se stocke pas au même endroit. Hein, il y a un cheminement d'informations. Ça, c'est pour la mémoire et sa plasticité.
Et donc, on va parler aussi de la mémoire de travail. Alors, je suis curieuse, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus hein ?
Bien sûr. Alors, la mémoire de travail,
merci.
Effectivement, ça vous ravit que je puisse vous en parler. Ah, je m'en doutais, Cyrielle. En fait, j'aurais peut-être pu dire non. Tout compte fait, non. Aujourd'hui, on n'en parle pas.
Et pas c'était la fin de notre émission.
C'était pas le sujet. Aujourd'hui, pas de mémoire de travail, parce qu'en fait, j'ai tout oublié. Non, non. Alors, la mémoire de travail, en fait, c'est une mémoire qui est... j'aimerais bien la comparer à la mémoire de travail de l'ordinateur.
Mm-hmm.
Vous savez, cette fameuse mémoire RAM, celle qui se trouve où on stocke les informations qui ne sont pas stockées sur un disque dur. On pourrait presque imaginer que le disque dur, c'est la mémoire à long terme, mais la RAM, la fameuse mémoire de travail, eh bien, c'est celle dont on va parler. C'est une mémoire dans laquelle les informations vont pouvoir être réutilisées quasi instantanément pour travailler.
Et est-ce que le cerveau humain a une bonne mémoire RAM ?
Oui, excellente, ouais. Excellente. Alors, la mémoire de travail, effectivement, elle permet de sélectionner et de coder les informations sensorielles utiles. Donc, il y a un tri qui est fait au niveau des informations sensorielles. Ces informations vont être maintenues dans cette mémoire pendant un certain délai et afin de pouvoir effectuer une réponse comportementale adaptée. J'ai une information, en fonction de ça, je peux y répondre, je peux avoir un comportement adapté. Donc on est bien dans une information qui est située à ce moment-là dans ma mémoire de travail. Mais je vais vous donner un exemple très, très simple. Imaginez que je vous demande de compter à rebours de 7 en 7 à partir de 100. Donc, vous commencez, vous écrivez 100 moins 7 égale et vous faites le calcul mental du résultat.
Oui. Okay,
bon. Donc, 100 moins 7 égale 93. C'est simple pour la mémoire de travail car en fait, il s'agit d'un traitement tout à fait procédural qui donne un résultat 93. Ensuite, ça se complique. Car 93 est une information sur laquelle il va falloir travailler et non plus une information qui émane du système sensoriel. Je ne vous ai pas donné 93, c'est vous qui l'avez trouvé 93. Donc comme vous l'avez trouvé et que ce n'est pas écrit, ça va impliquer de transférer 93 dans la mémoire de travail et de repartir de ce chiffre pour à nouveau retrancher 7 et obtenir un nouveau résultat. Vous voyez que finalement, ça paraît simple. Hein, 100 moins 7 des informations sensorielles, je vous la donne, 93, l'information vient de suite. Mais pour repartir de 93, il va falloir ramener cette information dans ma mémoire de travail et repartir de là pour calculer.
Donc ça veut dire qu'on a tout à fait le droit de prendre finalement plus de temps à faire 93 moins 7 que 100 moins 7.
Ah oui, évidemment. Je ne m'y attendais pas, celle-là. Mais oui, oui. Oui, Cyril, vous pouvez prendre
c'est
plus
gentil,
de temps.
C'est gentil, vraiment.
Plus de temps. En fait, la mémoire de travail est transitoire. Hein. C'est une mémoire transitoire avec une capacité qui est tout à fait limitée.
Mais j'aurais dû dire ça à mon professeur de mathématiques, hein. C'est vis-à-vis de la mémoire que je n'ai pas pu faire ce calcul assez rapidement. Hein.
Tout à fait. La mémoire de travail aussi peut aller chercher des informations dans la mémoire à long terme pour charger en fait des procédures qui sont stockées dans cette mémoire à long terme. La mémoire de travail nous donne aussi la capacité de nous orienter dans l'espace. C'est dans la mémoire de travail qu'on va voir les informations métriques, angulaires, de hauteur, de proportionnalité. D'accord ? Et en fait, il ne faut pas trop peu ou trop d'activité dopaminergique au niveau du cortex préfrontal. Il faut faire attention qu'il y ait une quantité vraiment adéquate pour pouvoir travailler. Sinon, on va générer des déficits profonds de la mémoire de travail. Donc, c'est vraiment des dosages qui sont faits au niveau des neurotransmetteurs, principalement, de manière à avoir le moteur qui tourne correctement, mais pas en sur-régime. Car des taux trop élevés, par exemple de noradrénaline, créent aussi des déficits profonds à la mémoire de travail. Et ça, c'est particulièrement embêtant. Alors, si on devait un peu, je veux dire, faire une différence entre la mémoire de travail et la mémoire à court terme, parce qu'on avait parlé de mémoire à court terme aussi. En fait, la mémoire à court terme, c'est la capacité donc à retenir des données pendant un temps très limité, moins d'une minute, d'accord ? Et sans y faire de manipulation, c'est juste un endroit de stockage. Je prends l'info, je la stocke dans ma mémoire à court terme. Cette mémoire peut extraire des informations stockées aussi dans le long terme, et ça peut opérer indépendamment la mémoire à long terme. Je peux avoir des éléments qui travaillent dans la mémoire à long terme et dans la mémoire à court terme, en même temps, les deux existent. Mais en fait, cette mémoire à court terme et mémoire de travail peut travailler indépendamment, c'est vrai, mais la mémoire de travail a besoin de la mémoire à court terme pour fonctionner. Je vous donne un exemple. Si je vous demande, par exemple, de mémoriser la série de mots suivants, je vous dis boîte, fruit, armoire, voiture, bureau. Boîte, fruit, armoire, voiture, bureau. Si je vous demande la restitution de ces mots, dans l'ordre dans lequel je viens de vous les présenter, vous allez faire fonctionner la mémoire à court terme. Parce qu'il n'y a pas une manipulation des données. Vous les avez simplement stockées. Mais par contre, si je vous demande de restituer par ordre alphabétique, à ce moment-là, cette liste, vous faites fonctionner la mémoire de travail.
Non, c'est plus compliqué. J'ai fait l'exercice moi-même là en ce moment et je prendrai un petit peu de temps. Je pense que j'y arriverai. Ça va, il n'y a pas encore trop de mots, mais
on va le faire ensemble.
Oh,
si je le répète ensemble, boîte, fruits, armoire, voiture, bureau, je fais fonctionner tout simplement ma mémoire à court terme. Aucun traitement. Je répète ce que je viens de prendre. Boîte, fruits, armoire, voiture, bureau. Maintenant, je demande la mémoire de travail. Et si vous avez vraiment une petite seconde, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une microseconde, entre guillemets, de réflexion. Mais ça, c'est le temps qu'il faut pour aller connecter cette fameuse mémoire de travail. Parce qu'on va prendre ces mots qu'on a mis dans cet ordre, qui était l'ordre que j'ai donné, pour en faire un ordre alphabétique. Et là, il va se passer quelque chose, et on quitte la mémoire à court terme pour passer dans la mémoire de travail. Et là, il y a un traitement de tri d'informations. Et donc, boîte, fruits, armoire, voiture, bureau, va devenir armoire, boîte, bureau, fruits, voiture.
Voiture, voilà. Tout à fait.
Et vous voyez que ça se fait, mais un peu plus lentement, d'accord ? Par contre, si maintenant je vous le redemande d'ici 30 secondes, ça ira beaucoup plus vite de nouveau, parce que le traitement ayant été fait en mémoire de travail, il y a des chances que cette information, puisque je la redemande exactement de la même manière, et que donc il n'y a plus de traitement, je peux imaginer que je repasse en mémoire à court terme. D'accord ? Donc c'est assez intéressant de voir en fait l'utilisation de ces deux mémoires. Voilà qui était le petit sujet sur la mémoire de travail.
On va marquer une petite pause, hein, et ensuite on va parler de notre sujet principal qui sera la cohérence cardiaque.